Radio Okapi.
À la une, interdiction de commercialiser la viande en provenance des pays voisins dans le sud Kivu. Mesure du gouvernement provincial, c'est après la déclaration au Burundi voisin de l'épidémie de la fièvre dite de la vallée du Rift. C'est un virus qui se transmet d'homme à animal et vice-versa et il n'y a pas de traitement, indiquent les autorités sanitaires du sud Kivu. Des nouvelles attaques des miliciens de la Codeco signalées hier dans plusieurs villages en Ituri. Ces miliciens ont réagi ainsi pour venger la mort d'un opérateur économique membre de leur communauté, expliquent certaines sources. La victime aurait été tuée par des éléments du groupe d'autodéfense Zaïre. Et puis, l'invité de ce soir, Dr Kibungi Mutanga Junior, ministre provincial de la Santé du Maniema, il nous parle de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée, campagne lancée cette semaine à travers le Maniema. Madame, Messieurs, bonsoir. Le gouvernement provincial du Sud Kivu interdit la commercialisation de la viande en provenance des pays voisins. Cette mesure intervient après que le Burundi a déclaré officiellement ses bovins frappés par l'épidémie de la fièvre dite de la vallée du Rift. Il est donc difficile à ce stade de confirmer un premier cas de cette maladie au Sud Kivu, affirme le médecin vétérinaire Vincent Mouigiroua, chef de division provinciale de pêche, agriculture et élevage. N'empêche que les autorités provinciales prennent des mesures de prévention pour éviter une propagation de la maladie dans la province du Sud Kivu, le docteur Vincent Mouigiroua, dans ses propos recueillis par Cynthia Bachizi.
De quoi est-ce qu'il s'agit? Bon, on incrimine souvent des tiques, aussi même des moustiques, pour la transmission. C'est une maladie qui ne peut pas se transmettre entre homme et homme. Non. Entre homme et animal, animal et homme, oui. Et comme c'est une maladie causée par un virus, il n'y a pas de traitement. Il faut prévenir. Pour la région du Grand Lac, le premier cas qui a été signalé au Burundi. Et le gouvernement de la République burundaise a déjà fait une déclaration. Et nous avions pris de ça pour essayer de sensibiliser la population. Nous avons d'abord parlé des mesures que nous avions prises. L'interdiction d'entrée de viande qui vient des pays voisins. Puisqu'on ne sait pas dans quelles conditions ces animaux étaient abattus, nous avions proposé un arrêté à l'autorité où nous avons délimité des zones. La zone où on suspecte qu'il y a la maladie, nous avons appelé ça zone déjà atteinte ou zone de séquestration. Alors les restes de la province sont des zones de surveillance. Les vétérinaires doivent être alertés. Les éleveurs doivent aussi voir s'il y a un cas comme ça qui puisse contacter le service vétérinaire le plus proche.
Santé toujours, la maladie Monkeypox est signalée dans la province du Kwilu. Un premier cas confirmé a été notifié dans le territoire de Massimanimba depuis près d'un mois et 6 autres cas suspects dans d'autres territoires. Information livrée hier par le ministre provincial de la Santé du Kwilu, Dr Benamutui, précise que les malades placés en isolement et les échantillons ont été envoyés à l'INERBE ici à Kinshasa. Le ministre provincial de la Santé du Kwilu explique au micro de Irène Boma.
La province a enregistré jusque-là 7 cas de monkeypox, donc un cas confirmé dans la zone de santé de Massimanimba et 6 cas suspects répartis de la manière suivante. La zone de santé de Gungu avec un cas suspect, Mwanza avec un cas suspect, Kikongo avec un cas suspect et Mokala avec 3 cas suspects. Les échantillons ont été prélevés et envoyés à l'INERBE, nous attendons la suite. Mais les cas confirmés de la zone de santé de Massimanimba évoluent très bien. Le malade avait été isolé, il avait été traité symptomatiquement, vous savez. Pour le monkeypox, jusque-là, il n'y a pas de vaccin. Donc, il va bien, les derniers coups sont en train d'être tombés. Même les cas contacts ont été suivis. Jusque-là, aucun cas contact n'a présenté les signes de la maladie. Donc, c'est une maladie éruptive qui se manifeste par des éruptions cutanées du type vésiculopapillaire qui vont finalement tomber au fur et à mesure que la maladie évolue. Il y a la fièvre qui accompagne ça. La maladie a commencé il y a de cela un mois passé qu'on avait détecté les premiers cas dans la zone de santé de Massimanimba et ça s'est éteint. Étant plutôt dans d'autres zones de santé.
Direction l'Ituri. Plusieurs villages ont été la cible dans la journée d'hier des attaques des miliciens du groupe armé de la Codeco URDPC. Des sources concordantes avancent le bilan d'au moins 3 morts, plusieurs personnes blessées avec des habitations incendiées. D'autres sources indiquent que ces miliciens ont réagi pour venger la mort d'un opérateur économique membre de leur communauté. Il aurait été tué par des éléments du groupe d'autodéfense Zaïre. À certains endroits, des militaires des FARDC sont intervenus pour limiter les dégâts, renseignent nos sources. Récit des fait avec Jean-Claude Lokidile.
Tout est parti de l'assassinat vendredi dans le groupement d'Eidja d'un commerçant qui regagnait son village sur une moto avec ses marchandises. Il aurait été intercepté par un groupe de personnes identifiées par certaines sources comme étant des membres du groupe d'autodéfense Zahir. Ces derniers auraient à leur tour réagi pour manifester leur colère après avoir été chassés de leur champ par des assaillants de la Codeco. Pour venger la mort de cet opérateur économique membre de la communauté, les rebelles de la Codeco ont attaqué plusieurs villages, dont Dar, sous l'axe Boulé-Largou. Ils ont incendié des maisons et auraient tué une personne. Quelque temps après, notre groupe a attaqué le village Lala, où se trouve également érigé un site des personnes déplacées. Ici, on signale la mort de quelques personnes dont le nom n'est pas encore connu. Contacté, l'administrateur militaire du territoire de Djougou promet de donner le bilan définitif de ces attaques après la réunion de sécurité qu'il préside en ce moment. Pendant ce temps, la société civile de Djougou exhorte les uns les autres à cesser avec des actes de provocation. Je dit que ce sont généralement des personnes vulnérables qui sont victimes de ces agissements. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Du côté du Nord Kivu, poursuite des combats entre les FARDC et le M23 dans le Rutshuru. Selon le porte-parole des opérations Sokola 2, les FARDC ont été surprises par 5 bombes tirées hier soir de la colline de Muabura au Rwanda. Ces bombes qui sont tombées respectivement dans la zone tampon de Katale à Biruma et à Musezero ont causé la mort des 2 enfants et un autre grièvement blessé. Information rapportée ce samedi matin à Radio Kapi par le colonel Guillaume Njike Kaiko. La même source ajoute qu'une école a été complètement endommagée non loin de Bigega, près de Bunagana. Les FARDC affirment toutefois avoir mis hors d'état de nuire les assaillants. De son côté, le M23 accuse l'armée régulière d'être à la base de la mort de ses 2 enfants, car ayant positionné ses canons en pleine cité de Bunagana, selon un communiqué des rebelles rendu public vendredi soir. Pour leur part, les forces de la défense rwandaise RDF indiquent dans un document rendu public hier que les FARDC ont tiré 2 roquettes à partir de Bunagana, roquettes qui sont tombées dans la cellule de Nyabigoma, secteur de Kinigi, district de Musanze au Rwanda, à la frontière avec la RDC. Dans ce même communiqué, les RDF indiquent que cet incident ainsi que l'enlèvement par les FARDC des 2 soldats rwandais en patrouille à la frontière ont été rapportés au gouvernement congolais, au mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL ainsi qu'à d'autres partenaires. Pendant ce temps, les animateurs de la Coordination nationale du Programme national de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS, ceux des 3 coordinations provinciales du Nord et Sud Kivu, ainsi que de l'Ituri, les autorités des 3 provinces et les bailleurs des fonds ont clôturé jeudi à Goma des travaux des 2 jours qui consistaient à déterminer les zones prioritaires qui seront prises en compte par les projets mis en œuvre dans le cadre du projet du Fonds de cohérence pour la stabilisation. Selon Tommy Tamboué, coordonnateur du PDDRCS, ce pré-projet est évalué à 14 millions de dollars, reliquat du fonds de cohérence qui vont permettre de lancer les activités sur le terrain, ce en attendant le grand financement du gouvernement congolais et des bailleurs. D'autres détails avec Rosalie Zawadi.
Pour les vice-gouverneurs du Nord Kivu, les commissaires divisionnaires Jean-Romuald Ekoukalipopo, avec ses fonds disponibles et les zones déjà ciblées, il ne faut plus tirer les choses en longueur.
Car les populations ont souffert. Les démobilisés qui avaient eu la bonne volonté de rejoindre le camp national, piaf d'impatience de pouvoir y rester. Et nous devons rapidement faire pour qu'ils ne rentrent pas de nouveau dans la fosse. Donc je nous demanderai tous à nous mobiliser, pas plus tard que dès aujourd'hui.
Les fonds de cohérence pour la stabilisation est un fonds multibailleur qui existe depuis plusieurs années déjà. Pour Khaled Ibrahim, coordonnateur principal de l'unité d'appui à la stabilisation à la MONUSCO, les 14 millions constituent juste un début.
C'est un premier pas, c'est un lancement pour démarrer le PDDRCS avec les fonds qui existent déjà. Une fois que les projets vont commencer, les activités commencent à donner des résultats. On continue à faire le plaidoyer pour avoir de ressources additionnelles pour élargir les zones d'intervention et pouvoir arriver à tous les groupes cibles du PDDRCS.
Dans les 3 provinces, les acteurs des terrains préparent déjà les projets à exécuter. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Direction le Haut-Katanga, le roi Philippe et toute sa suite ont visité ce samedi le village Katanga, situé dans le territoire de Kambove, à plus de 90 km de Lubumbashi. Les populations locales ont présenté au roi des Belges les produits issus du projet des forêts communautaires, une visite que les natifs de ce village ont qualifiée d'historique. Jean Gandou Kabongo, reportage.
C'est tout le village qui s'est mobilisé pour réserver un accueil délirant au couple royal belge. Une occasion pour les représentants de l'autorité locale, non seulement pas de dresser la carte postale de ce village qui a donné le nom à la province du Katanga, mais aussi de relever quelques difficultés auxquelles il fait face. C'est notamment les dérèglements climatiques dus, entre autres, à l'exploitation minière, à la culture sur brûlis et à la coupe abusive des bois, ce qui fait que les agriculteurs ont du mal à beaucoup produire. Conséquence, ce village enregistre plusieurs cas de malnutrition chez les enfants, d'où l'implication de la FAO dans les projets des forêts communautaires communément appelés Miyombo, financés aussi par le Royaume de Belgique. L'objectif étant de permettre aux habitants de ce village de jouir des fruits issus de l'exploitation de ces forêts dans la production de chenilles, de champignons, de miel et autres biens qu'ils peuvent consommer, voire vendre pour subvenir à certains de leurs besoins. Le roi a salué leur implication dans la préservation des forêts communautaires qui contribuent aussi à la lutte contre le changement climatique. Cette visite du couple royal belge est saluée aussi par les ressortissants de ce village, à l'instar de Eric Monga.
C'est une fierté et c'est une très grosse ouverture pour voir un peu comment tout le monde s'implique dans la découverte historique d'un village qui a donné le nom à toute une province, à tout un peuple, à toute une économie.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Parlons culture à présent. Accroître le dialogue entre Africains et promouvoir la culture des peuples africains, c'est parmi les objectifs que poursuivent les organisateurs du Festival international multiculturel African Zuri, dont la deuxième édition se tiendra tous les week-ends du 17 juin au 2 juillet prochain dans quelques espaces culturels et salles de Kinshasa. La première édition a eu lieu en Éthiopie. Le lancement des activités de la deuxième édition a eu lieu hier à l'hôtel Rotana. Madame Sonia Kabanda, une Congolaise résidant en Éthiopie, revient ici sur les objectifs et parle du menu de cette édition. Elle est au micro de Dandy Bompela.
L'objectif de l'activité, c'est d'accroître le dialogue entre les pays africains. C'est de promouvoir la culture africaine parce qu'on a tendance à l'oublier. On a tendance à oublier d'où on vient. On a tendance à oublier qui on est. On le dit très bien, la culture, c'est l'âme d'un peuple. On a tendance à ne pas valoriser, par exemple, nos tenues africaines, à ne pas valoriser notre coiffure africaine, à ne pas valoriser notre beauté africaine. Et il y a d'autres personnes qui le copient. Et donc, comme nous avons nous-mêmes nos produits, pourquoi pas le promouvoir? Et l'objectif d'African Zuri, c'est aussi de contribuer au développement durable du pays. C'est toutes ces personnes qui ont, eux, leur talent, qui vont venir montrer ce de quoi ils sont capables. La musique traditionnelle et moderne, la danse traditionnelle et moderne. Nous avons des jeunes peintres congolais qui sont ici. Nous avons un autre peintre qui fait plutôt de la peinture réaliste qui vient du Madagascar.
Culture encore, l'artiste comédienne congolaise Maggie Kalumba Mbui a présenté en grande première quinoise hier dans la nouvelle salle des spectacles du Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa sa nouvelle création intitulée Bongolatrice. Cette pièce s'inspire du recueil des nouvelles du professeur André Yoka qui porte le même titre dans une mise en scène de la Suissesse Iria Diaz. En plus de la production théâtrale, il y a eu également présentation et vente de l'ouvrage Bongolatrice du professeur André Yoka. Sachez que ce spectacle a été déjà présenté au cours de cette année en Suisse. Bongolatrice est une pièce qui peint le portrait d'une femme congolaise, actrice de son développement. C'est comme l'explique la comédienne Maggie Kalumba Mbui, directrice de la compagnie Mapendo Théâtre. Elle est au micro de Jean-Marc Matouaki.
Moi, j'aime tout ce qui parle à la femme en tant que femme. Je m'intéresse beaucoup à la question de la femme. Je m'intéresse beaucoup aux problèmes de la femme. C'est vrai que toutes les histoires tournent autour de la femme. Bon, directement et indirectement. C'est vrai qu'il y a d'autres histoires où on a comme héros l'homme. Mais vous allez trouver que dans cette histoire-là, on touche un peu la femme. Parce que aujourd'hui, on considère la femme comme étant un être fort, un être résilient, un être qui est au centre de tout, quoi. Aujourd'hui, le développement du pays, ça passe par la femme, par la femme. Du coup, c'est aussi une ode à la femme, c'est aussi un moyen de rendre visible la cause de cette femme-là, un moyen de rendre hommage à cette femme-là. Parce que la femme, elle n'est pas toujours victime. Cette femme, dont moi je parle, c'est pas la femme victime, c'est la femme forte.
Qui est actrice.
Qui est actrice, qui est, voilà, actrice du développement.
Actualité internationale.
Le projet controversé du Royaume-Uni d'expulser des migrants vers le Rwanda est maintenu malgré une demande d'urgence des ONG. Un juge britannique a rejeté la requête visant à bloquer les vols d'expulsion des demandeurs d'asile vers le Rwanda, vols qui doivent commencer la semaine prochaine en vertu d'un accord avec ce pays d'Afrique de l'Est, estimant que les politiciens doivent gérer la politique d'immigration. Des organisations caritatives britanniques prévoient de faire appel. Entre-temps, dans une conversation privée rapportée par le quotidien des Times, le prince Charles a critiqué ce projet de renvoyer au Rwanda des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le ministre provincial de la Santé du Maniema, Dr Kibungi Mutanga Junior, nous parle de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, campagne lancée le mercredi 8 juin sur toute l'étendue du Maniema par le gouverneur intérimaire, ce avec l'appui du gouvernement central et le financement du Fonds mondial. Dr Kibungi Mutanga s'entretient à ce sujet avec Florence Kizalunga.
Docteur Kibungi Mutanga Junior, bonjour.
Bonjour madame journaliste.
Aujourd'hui, vous venez de lancer la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée. Cette campagne vise combien de ménages sur toute l'étendue de la province du Maniema?
Cette campagne va concerner 619 841 ménages dans l'ensemble de la province.
Quelle stratégie que vous avez adoptée pour permettre à toute la population de bénéficier de ces moustiquaires?
Contrairement aux autres campagnes, cette fois-ci, il s'agit de la stratégie porte-à-porte. Donc, les relais communautaires vont passer devant chaque ménage pour distribuer la moustiquaire.
Chaque année, vous distribuez des moustiquaires. L'objectif, c'est pour lutter contre la malaria. Contrairement aux autres années, les statistiques, est-ce qu'il y a diminution des cas de malaria après les distributions des moustiquaires?
Nous avons toujours un bon résultat. Comme vous savez, les autres années, nous avons distribué des moustiquaires gratuitement aux ménages. Et les statistiques ainsi que les enquêtes dans les ménages ont montré qu'il y a régression des cas de paludisme, que nous appelons aussi malaria, ainsi que les cas de décès dits au paludisme. Il y a vraiment réduction sur les plans statistiques.
La campagne que vous lancez aujourd'hui, il y a certaines personnes qui accusent les autorités sanitaires, disant que ce ne sont pas les vrais bénéficiaires qui bénéficient de ces moustiquaires. Qu'est-ce que vous dites à la population par rapport à cette campagne d'aujourd'hui?
Je dirais que ce ne sont pas les autorités sanitaires ou les responsables des centres de santé qui vont distribuer cette fois-ci. Ce sont les relais communautaires, les gens des milliers, eux-mêmes vont distribuer dans les ménages qu'ils maîtrisent bien. Donc nous avons l'espoir que cette fois-ci, il n'y aura pas de telles inquiétudes.
Monsieur le ministre, avant il y avait le système des jetons, mais cette fois-ci vous avez pris l'initiative de faire cette campagne de porte à porte. Et s'il arrivait qu'une personne, le ménage, n'était pas présent lors de la distribution, est-ce que vous avez prévu une issue pour donner cette population aussi des moustiquaires?
Oui, la stratégie porte à porte se justifie dans le sens où cette fois-ci, il y a la pandémie à COVID-19. On n'a pas voulu mettre des sites fixes où les gens pouvaient se mettre en grand nombre pour risquer la contamination. C'est pourquoi nous avons choisi la stratégie porte-à-porte. Et aussi, comme la stratégie porte-à-porte, il n'y avait pas de bien fondé pour avoir des cartes. C'est-à-dire, ça pouvait être du gaspillage inutile parce que les dénombrements ainsi que la distribution vont se dérouler au même moment. Mais la fois passée, c'était d'abord les dénombrements. L'autre temps, il s'agissait de la distribution. C'est pourquoi on avait des cartes. Mais comme cette fois-ci, dénombrement et distribution au même moment, il n'y a pas besoin d'avoir des cartes.
Dans le discours, nous avons entendu que c'est 1,934,932 moustiquaires qui seront distribués sur toute l'étendue de la province. Et s'il arrivait que les nombres dépassent, qu'est-ce que vous avez prévu?
Oui, nous avons prévu des stocks de réserves dans chaque zone de santé. C'est pourquoi je m'en vais à répondre directement aussi à votre question là, qui avait les soucis. Est-ce que si un ménage a raté, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons prévu aussi des jours de ratissage par rapport aux jours prévus pour que cette fois-ci, qu'il n'y ait pas un ménage qui va manquer. Et aussi, il y a une stratégie. Nous allons envoyer les gens qu'on appelle vérificateurs de ménage pour voir si un ménage qui a raté, on informe à l'infirmier titulaire pour qu'on puisse rattraper.
Dans toute activité et opération, il ne manque pas de dérapage. Quel est votre conseil à tous ceux qui vont intervenir dans cette opération?
À tous les intervenants, nous demandons à chacun de faire son travail comme il se doit. L'objectif, c'est aider notre population à lutter contre le paludisme pour que les nombre des morts, le nombre des malades puisse diminuer. Oui, le paludisme est endémique, comme on dit. Donc, nous vivons avec cette maladie dans notre province parce que le climat le favorise dans le sens. Il y a d'autres stratégies telles que l'assainissement des milieux pour que le moustique ne puisse pas avoir de gîte pour se produire.
Une maladie endémique, un petit conseil aux bénéficiaires parce qu'il y a certains qui ne veulent pas utiliser d'oignons sur la moustiquaire.
Oui, je profite de votre micro pour demander à la population qui vont bénéficier des moustiquaires gratuitement de l'utiliser correctement. Si vous ne dormez pas sous moustiquaire, ça ne sert à rien d'en avoir dans la maison. Et nous demandons à la population cette fois-ci de ne pas l'utiliser pour d'autres fins qui ne sont pas destinées.
Docteur Kibungi Mutanga Junior, merci.
Merci beaucoup.
Le ministre provincial de la Santé du Maniema répondait aux questions de Florence Kizalunga. C'est la fin de ce journal coordonné par Pierrot et Lameji. À la technique, c'était Jean-Noël Mokondo Yoka. Et devant ce micro, Belinda Bosuma, merci d'avoir été des nôtres.